Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès.
Ce mois-ci, les Colibris d'Alès accueillaient lors de leur soirée des Jeudis des Colibris deux gardiens de la biodiversité locale, deux passionnés des semences et variétés anciennes. Magali Outier, qui est formatrice en production de semences paysannes, et Martin Lacroix, qui est le coordinateur du réseau Fruits Oubliés. Grâce à eux, nous allons comprendre que le patrimoine génétique des tomates de grand-mère et de l'abricotier planté par Pépé sont des trésors qui devraient être classés au patrimoine de l'humanité, ou tout du moins préservés et reproduits avant qu'ils ne s'éteignent. Au micro de Céline Elodie, Magali Outier nous livre toute l'importance de son travail pour la préservation des semences paysannes.
On se réunit ce soir autour de la thématique des semences avec Magali Outier.
Bonsoir.
Alors Magali, merci d'être avec nous ce soir malgré ton programme bien chargé, je crois, en cette période de printemps.
C'est la période aussi.
Hein. Et oui, c'est ça, surtout pour une spécialiste des semences. Donc toi, tu es formatrice et animatrice en production de semences paysannes. Et tu es une des cofondatrices de la Maison des semences paysannes dans le Gard et Cévennes.
Oui, voilà. Créée en janvier.
Créée en janvier, voilà, toute récente. Très bien. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une semence paysanne ? Quelle est la particularité ? Pourquoi paysanne ?
Alors, une semence paysanne, en fait, ça, c'est un travail de longue date. Hein. Il existe depuis une quinzaine d'années maintenant un réseau de paysans qui ont créé le réseau des semences paysannes. C'était des gens qui pensaient être très seuls chacun dans leur coin en France et qui s'est avéré, lors d'une rencontre, ils se sont retrouvés 350 à se poser les mêmes questions, en fait. Et que ce soit sur les OGM, que ce soit sur le type de semences utilisables ou que ce soit ce qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Et ils ont créé le réseau semences paysannes. Ça a été créé par plusieurs organisations. Et ça fait 15 ans, en fait, j'en suis une ancienne salariée, je suis administratrice à l'heure actuelle au nom de Nature et Progrès de ce réseau. Et ça fait donc quelques années qu'on cherche à définir ce que c'est une semence paysanne. Alors, je vais vous la faire courte, hein, parce que c'est un peu technique. Donc, je vais traduire un peu. Donc, c'est en fait, avant tout, une semence paysanne, c'est une semence qui est reproductible, que l'on peut refaire. C'est une semence aussi qui n'a pas subi dans sa sélection et sa multiplication des manipulations au niveau de la cellule. Chose qui se fait beaucoup depuis les années 50, en fait. Et c'est une semence qu'on va reproduire dans les champs, dans les jardins, dans les vergers, parce que ça comporte les aromatiques, mais aussi les potagères et les fruitiers, ainsi que les céréales. Voilà, donc tout ça a mené en agriculture ou paysanne, ou en biologique, ou en biodynamie. Donc sans intrants de synthèse. C'est aussi une semence qui est reproduite par pollinisation libre. C'est-à-dire que si ce sont les insectes qui doivent reproduire, ce sont les insectes qui reproduisent. Donc sans manipulation particulière. Et surtout, c'est une semence aussi qui est échangeable, où il n'y a pas de droit de propriété particulier dessus, commercial. Donc qui est échangeable quand même dans le respect des droits d'usage que définit le collectif qui fait vivre ces semences-là. C'est elle qui travaille, c'est elle qui fait vivre, qui cohabite avec cette semence, et c'est elle qui va aussi, ce sont ces collectifs qui vont définir des règles d'usage, en fait. Voilà. Donc c'est un peu tout ça, une semence paysanne.
C'est beaucoup, c'est une grande définition.
Voilà.
D'accord. Mais bon, c'est beaucoup et à la fois, c'est la semence, quoi. C'est l'histoire de la semence, c'est ce qu'elle a été jusque dans les années 50. C'est là que tout a changé, non ?
Oui, c'est à ce moment-là, en fait.
Avant, elle était toujours ce que tu viens de dire, la semence.
Oui, ça ne se posait pas, en fait.
La question ne se posait pas. Ouais. Donc la question est venue se poser à quel moment ?
Ben, on va dire à partir des années 45. À partir de la création du catalogue officiel, et je dirais au-delà de la création du catalogue officiel où on doit inscrire les variétés qu'on peut commercialiser, c'est un système, une mutation de société en fait. Je pense que là, on parle de tous les sujets au colibri. Ça fait partie aussi de ça. La semence, c'est pas à détacher du reste du fonctionnement de la société en fait. C'est aussi lié à une logique. À des choix qu'on a fait en termes de société. C'est-à-dire que là, ça a été au niveau de l'industrialisation, on a voulu définir ce qu'était une variété et à quoi elle correspondait. On a fait aussi le choix à ce moment-là, au niveau de l'agriculture, de partir sur du minéral, le fameux NPK, qui était aussi des déchets de la guerre, faut pas oublier, on savait pas trop qu'en faire. Donc, mais ça a été aussi un choix à la fois au niveau scientifique et au niveau sociétal d'oublier la partie vivante du sol, pour ne pas considérer que la partie minérale, la partie non vivante. Et au niveau de la sélection, ça a été la même chose. On a dissocié en fait la sélection de ce qui était vivant, de ce qui faisait vivre cette sélection, c'est-à-dire c'est un paysan, c'est un terroir. Et on a dissocié ça en fait. C'est devenu un métier de spécialiste, de laboratoire. Donc c'est, et du coup, on a dépossédé tout ça des paysans, des jardiniers qui le faisaient depuis des générations, depuis que l'agriculture est sédentaire, en fait. Depuis que l'agriculture est née, tout simplement, quoi. Donc, c'est des choix de société, et avec tout ça, c'est aussi, moi, je dirais, c'est aussi la période où on a eu l'aberration, on a réussi à faire croire aux femmes que leur lait maternel était plus bon pour leurs enfants. C'est la même période, quoi. C'est l'existence, c'est la création dans les années 50 des premières grandes surfaces. Et des grands supermarchés, de l'agro-industrie commerciale, alimentaire. Tout ça, c'est lié, en fait. C'est une logique de société. Voilà. Et donc, on a dépossédé les paysans de ça. On en a fait un métier de spécialiste. Et en l'espace de deux générations, on a réussi à faire perdre le savoir-faire.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer le catalogue officiel, qu'est-ce que c'est ?
Donc, le catalogue officiel, c'est un catalogue qui, au départ, a été créé pour... comment dire, quand on achète une semence et une variété, c'est savoir ce qu'on achète. C'est-à-dire, si on veut acheter une laitue, je sais pas, Reine des Glaces, par exemple, ça correspond à quelque chose de bien précis en termes de description de la laitue. Elle n'est pas rouge, elle est verte, elle a des feuilles bien spécifiques, etc. Donc, c'était fait pour ça au départ. Mais en fait, après, ça a eu une sacrée déviance. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on a l'obligation d'inscrire une variété au catalogue officiel pour pouvoir commercialiser la semence. On doit répondre à des critères bien spécifiques qui sont distinction, homogénéité et stabilité. Ça, c'est complètement l'inverse de la vie, du vivant et de l'évolution.
D'accord.
Du vivant.
Ok. Naturellement, une semence n'est pas forcément stable.
Non.
Elle évolue, elle se mélange, elle se métisse, on pourrait dire, hein, avec les autres variétés qui l'entourent, etc. Donc ça, ce sont pas des critères qui peuvent correspondre à des semences paysannes. En gros, les semences paysannes ne peuvent difficilement apparaître dans le catalogue officiel.
Non, effectivement, il y a des Allemands qui travaillent depuis très longtemps à créer des variétés et qui essayent de les inscrire. Ils ont un mal monstrueux à arriver à les faire inscrire parce que fatalement, ce sont des variétés qui sont vivantes. Donc, on parle de population, comme nous, hein, nos populations. On n'est pas tous pareils, quoi. Il y en a des plus grands, des plus petits, des machins.
Il n'y en a pas deux pareils, même.
Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est des populations qui, au niveau génétique, sont très riches, sont très diversifiées. Distinction, homogénéité, stabilité, c'est un peu compliqué, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui dépasse par rapport à l'autre. Enfin, bon.
Ciel ouvert, la peau remplace le fusil pour faire moucher ici et taquiner.
façon faux semblant et font le tour de la planète pour finir déguisés au fond de nos assiettes. Il y a sous-dondé, bien planqué, protégé. OGM et pesticides, il est temps de dire non, d'engager un procès pour écocide.
C'était la rengaine des faucheurs dans le champ des colibris. Nous parlons semences avec Magali Outier, formatrice en semences paysannes. Alors, si les OGM sont un grand danger qui continue de se répandre, car de nombreuses manipulations génétiques parviennent aujourd'hui à contourner l'appellation OGM, un autre fléau est déjà partout répandu, celui-ci. Ce sont les semences hybrides F1, qui sont des semences non reproductibles, et donc qui rendent les agriculteurs esclaves des semenciers industriels, et ce même en agriculture biologique.
Comment les gens qui créent ce catalogue officiel et puis tous ceux qui commercialisent aussi bien les produits agricoles que les semences, comment ils assurent une stabilité de eux, de leurs semences ?
C'est artificialisé, c'est pour ça que dans la définition, on parle de pollinisation, etc. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu technique là, hein, mais eux, ils vont auto-féconder une variété sur plusieurs générations pour en faire...
Comme un chien de race, quoi. Ils se reproduisent entre eux et puis à la fin, ils deviennent complètement dégénérés.
Bah là, c'est... ça peut, parce qu'effectivement, il y en a certaines, quand on les ressème, ça dégénère complètement, hein, ça c'est clair. Et il y a des techniques, il y a beaucoup de variétés qu'on appelle hybrides, qui effectivement sont auto-fécondées chacune de leur côté, et puis qu'on croise. Donc là, ça donne quelque chose qui donne un bon rendement, qui donne ce qu'on a envie, mais qui ne sont pas reproductibles.
Voilà, c'est ça, c'est des semences qui ne sont pas reproductibles. Donc on peut les planter, elles vont nous donner un légume, mais on ne pourra pas les replanter après.
Si on les replante, on va avoir des choses très différentes ou dégénératives, surtout dégénératives. Mmh. Parce que l'hybridation elle-même, c'est un phénomène naturel, c'est ce qui fait l'évolution, ce qui fait qu'on a la création d'espèces, de races, de variétés dans la nature. C'est quelque chose qui est complètement naturel, l'hybridation. Mais là, c'est une hybridation, on a d'abord appauvri, et après, on a croisé. D'accord. Donc, au niveau génétique, la diversité est très, très pauvre, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Et ça, c'est jackpot. C'est les sous.
Là, c'est bien sûr.
On est obligé de racheter.
Voilà, on est obligé de racheter chaque année ces semences. Donc, effectivement, c'est intéressant pour le monde du business. Mmh. Par contre, pour la biodiversité, c'est un immense appauvrissement. Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de vendre, de commercialiser ni les semences, ni peut-être même les légumes. N'apparaissent pas au catalogue,
c'est pas à ce point. Bon, c'est un système qui fait qu'au niveau planétaire, on a quand même perdu 75% de la biodiversité cultivée.
Ouais, quand même.
C'est des chiffres de la FAO qui datent déjà d'il y a quelques années. C'est une pression forte qui fait qu'on a un peu obligé les paysans à mettre des intrants, etc. C'est vrai qu'au début, qu'ils ont fonctionné comme ça, c'est vrai que mettre de l'engrais, c'est comme mettre sous perfusion, on a tout de suite des super résultats, il n'y a pas de souci, quoi. Mm-hmm. Mais on ne réalise pas que derrière, en termes d'immunité, on va appauvrir, que toute la faune et la flore de la terre et du sol s'en va. On fragilise au niveau, donc là, les insectes commencent à attaquer, les champignons s'installent, etc. C'est toute une logique. Ça se fait un peu partout à travers la planète, hein, c'est un constat. Et je dirais qu'on est peut-être les plus mal placés, nous, dans nos pays civilisés, parce que justement, ça fait déjà plus longtemps qu'on a ça. Il y a encore des pays où il y a plus de diversité qu'ici.
Et on parce qu'il y a encore une grande population paysanne.
Ouais, il y a des paysans, effectivement. Mm-hmm. Ouais, il y a beaucoup d'auto-alimentation et une paysannerie vivrière que l'agro-industrie essaye de casser.
Mm-hmm. Et qui a bien réussi en France, parce qu'il y a...
Ouais, il y a longtemps, mais on fait aussi pas mal de dégâts ailleurs. Et en France, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais sinon, pour revenir ici, on a toujours eu le droit de commercialiser les légumes issus de variétés paysannes. On a toujours eu le droit. Par contre, on n'a pas eu le droit, les paysans n'avaient plus le droit d'échanger, de donner ou de vendre des semences paysannes.
D'accord.
Ça, il y a eu une interdiction. Sauf que il y a eu un certain travail au niveau juridique, entre autres du réseau Semences Paysannes, qui fait que la loi biodiversité de juillet a réhabilité ce droit. Les agriculteurs, dans le cadre de l'entraide agricole, ont le droit au jour d'aujourd'hui de s'échanger, de se donner et de se vendre des semences reproductibles.
Bravo pour ce travail, c'est un bel exemple du travail qui est effectué par le réseau Semences Paysannes. Toi Magali, comment tu es venue à t'intéresser à la question des semences ?
Ouais, c'est une longue histoire, c'est une vieille histoire.
Alors on l'a fait courte.
en raccourci. je suis comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense que je suis issue de parents qui sont issus de la paysannerie. J'ai une maman ardéchoise qui est partie à la ville, hein, comme tant d'autres. Mais on a toujours eu un jardin et moi, ça a toujours été mon terrain de jeu, en fait. Hein, de ramasser des graines de fleurs parce qu'elles étaient rigolotes, parce que voilà. Et donc après, j'ai eu un jardin en étant adulte et en ayant des enfants aussi, assez jeunes. Et puis, on a fait naturellement nos semences et puis on découvrait qu'il y avait plein... les courges, il n'y avait pas que cette courge-là, la musquée de Provence qui peut être bonne, mais il y en avait plein d'autres. Pareil, les tomates, plein de formes, plein de couleurs et plein de goûts, de diversité qui sont délicieuses, quoi. Donc on a commencé à faire ça. Et puis, très innocemment, on a réappris parce qu'on s'est rendu compte que ma mère en faisait un peu, mais... Enfin, mon grand-père faisait ses semences, mais il y a eu un décalage d'une génération.
Ça s'était perdu.
Quoi. Voilà, ça s'était perdu. Mais je garde le souvenir de mon grand-père qui gardait ses semences. Et comme beaucoup d'entre nous, je pense, je les ai perdues aussi, parce que je n'avais pas réalisé à l'époque. Mmh. Et on a commencé à garder nos semences. Et je me suis installée, donc j'ai une ferme avec mon compagnon à l'époque. Et très innocemment, on faisait de la vente directe, on accueillait en même temps, on était sur un lieu touristique. Et donc, on présentait notre production. On avait beaucoup de diversité en pommes de terre, en courges et en tomates. Et ça faisait beaucoup parler, les gens nous demandaient des semences. Donc nous, on vendait de la semence, très innocemment. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une législation. On s'est dit, oups.
On
n'a pas le droit. Exactement. Donc les semences sont passées sous le comptoir. c'était pas très légal. Soit. On continuait à exposer, puis qu'on commençait à discuter, puis quand les gens nous ont demandé, voilà. Et puis, pour une histoire de séparation, la ferme s'est arrêtée et je suis allée plus loin, en fait. Je suis travaillée à Terre Humanisme, où j'ai eu des collègues de travail qui travaillaient aussi sur la semence. Et puis après, je suis allée travailler, ça me titillait quand même, donc je voulais en savoir davantage, donc je faisais toujours mes semences, hein. Ça fait 25 ans, 30 ans que j'en fais. Et donc j'ai voulu apprendre davantage techniquement, et puis au niveau juridique, ça m'a titillé, et j'ai postulé au réseau Semences Paysannes.
D'accord. Voilà. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le retour de ces semences paysannes ? Tu as plusieurs actions, quelles sont-elles ?
Alors, quand je suis sortie du réseau Semences Paysannes, moi, j'avais fondamentalement besoin, et c'était une urgence pour moi, de me dire qu'il y a des trésors de diversité qui partent, et des gens qui s'en rendent absolument pas compte, qu'ils ont des trésors dans les mains, qui partent, hein, c'est des anciens. On a quelqu'un dans la salle qui pourra vous en parler tout à l'heure, Michel, qui a une courge familiale et je le remercie d'être là. Il pourra vous faire partager son expérience.
Avec plaisir.
Donc pour moi, c'était l'urgence de retrouver des variétés locales et de sauver encore ce qui était sauvable, d'avoir les mains dans la terre, ça c'est essentiel pour moi, c'est vital, je dirais. Et puis, donc on a créé, donc j'ai fait, je donne des formations pour réapprendre à faire ses semences, parce que c'est vraiment un réapprentissage, c'est quelque chose qu'on savait faire et qui revient, hein. C'est pas, il ne faut pas être un bac plus 5 pour faire des semences. Hein.
C'est juste un savoir-faire.
C'est un savoir-faire, c'est tout. Hein. C'est tout, et tout le monde peut le réapprendre, il n'y a aucun problème. Quoi. Mmh. Et,
ces formations que tu les donnes dans quel cadre alors ? C'est ouvert à tous ?
Oui, c'est ouvert à tous. Je donne des formations individuelles, bon, des formations de 4 jours réparties dans l'année. Mmh. Ça nous permet de faire des visites aussi concrètes et de voir concrètement sur le terrain à différentes périodes de l'année. Mmh. Je fais des formations aussi pour maraîchers. Et là, bon, je vais réfléchir comment diversifier aussi. On fait des visites aussi de parcelles, parce que tu demandais comment on s'organise. En fait, on a créé un collectif sur Saint-Brès, on est 7, un mélange de maraîchers et de jardiniers, où on fait de... La maraîchère en question a laissé 300 mètres carrés, elle faisait de la semence, mais en tant que maraîchère, c'est très difficile de tout mener de front. En particulier, les semences, c'est au moment où on récolte. Donc, elle est venue nous voir en nous disant bah, « j'aimerais bien, mais j'y arrive pas sur les moments cruciaux, quoi, en fait ». Donc, elle a dit, par contre, je peux mettre une parcelle à disposition. Donc, on a 300 mètres carrés, on est 7, on s'éclate complètement.
Donc là, vous avez fait un jardin de semences.
Voilà.
Tout ce que vous plantez ne sert qu'à récolter les graines pour pouvoir conserver ces variétés et les redispatcher.
C'est complètement, c'est vraiment l'objectif de cette parcelle. On a plusieurs objectifs de soit on teste des variétés qu'on commence à récupérer, on fait des sélections dessus... On fait de la préservation, on fait l'adaptabilité aussi, parce qu'en tant que maraîcher, ils ont envie d'avoir des variétés qui sont adaptées chez eux et de ne pas avoir besoin de réacheter les semences. Mmh. Et là, même par un heureux hasard, on est en train de faire la création variétale. Et là, j'avoue qu'on ça a démarré plus fort que je ne pensais.
S'agirait-il par hasard de la feuille de chêne tachetée ou mouchetée ?
C'est ça.
Je l'ai mangée à midi. Ah, elle me plaît énormément.
Voilà. Ouais, ouais, bah c'est,
bravo.
Voilà, pour la petite histoire, on a préservé. Moi, c'est une laitue feuille de chêne que je préserve depuis 20 ans, que je mange depuis 20 ans, tout simplement, qu'on a multiplié. Et puis, un peu plus loin, on avait multiplié de nos voisins de l'Hérault une laitue mouchetée salasque. Et les deux se sont croisés. Et on a récupéré que quelques graines qui ont présenté à la fois de la feuille de chêne, mais mouchetée, un truc qu'on n'a pas encore vu nulle part. Et voilà, on est en train de faire de la création variétale. Quoi. Bon, ça va demander quand même une paire d'années hein, pour avoir vraiment une nouvelle variété. Voilà, voilà, mais on s'amuse, quoi. Voilà.
C'est très beau, cet accompagnement du vivant et de toute sa créativité.
Voilà, ouais, mm-hmm. Tout à fait. Ouais.
Et la Maison des semences paysannes, alors, qui a été créée depuis janvier dernier, c'est ça ?
Ouais, depuis janvier. Donc, en fait, on était un certain nombre, bon, déjà de ce collectif-là, qui existe depuis 3 ans maintenant, et un certain nombre de personnes, on avait envie de travailler autour de la semence paysanne, et que ça soit pour jardinier ou maraîcher, on avait envie que toutes ces variétés-là se retrouvent de nouveau sur les tables, et sur les tables, pas uniquement des jardiniers, pas uniquement des maraîchers, mais aussi sur les tables de tous les mangeurs.
C'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fait pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marrant. Ici tu pousses des bêtes, et des potimarrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde s'accarate et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste au carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté. TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi?
Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. USB, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le boîtier mais dans la sueur de bois. USB, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. USB, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes à chasser, t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini, le plouf, c'est fini. Les fesses brouillées, c'est fini, les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi, au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, 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 alors rejoins le toilette sèche pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer. Planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires je cultive la terre. Me shoot au nucléaire, mec je connais les affaires. Big up aux fruits, légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dames de Shaquille. Dimanche pile mon tracteur en mode gangster. La tête K.A. à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde s'accarote et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde ton cochon et tout le monde ton poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Yo bang bang, monkey mix, MC Grenadier, MC Click 2012. Yo ya, yo ya, Bruxelles, Belgique.
Vous écoutez Radio 16, c'était les potagers que nous interprétait Pangfing Monkey dans le chant des colibris. Quand le rap se met à la permaculture, avec cette belle énergie, ça donne envie de planter des salades, n'est-ce pas? C'est Made in Bruxelles, ils sont bons ces Belges. Quant à nous, on parle aussi potager et semences paysannes avec Magali Outier.
Et qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Elle est ouverte à qui cette maison des semences paysannes? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors en ce moment, on essaye de s'organiser, d'avoir du temps pour s'organiser,
ouais, parce que
ça demande vachement d'énergie, mine de rien, de créer quelque chose. Là, on a commencé déjà à poser des bases. On a un bon CA d'une dizaine de personnes. On est 3 coprésidents. Donc, on est parti sur des bases assez horizontales, on va dire. Ensuite, on a plusieurs groupes de travail qui se mettent en place. Il y en a un sur simplement de la multiplication de variétés. Donc, on a un listing des membres et puis de voir un peu ce que chacun fait pour pouvoir se faire des échanges. On est en train de faire tout un programme de collecte et de préservation des variétés locales, de voir ce qui est encore sauvable sur le secteur. Donc là, on est en train de monter des dossiers et avec des demandes de financement, parce que ça prend énormément de temps et c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'arriver à pouvoir, comment dire, collecter leur histoire, leur culture avec un grand S, parce qu'il y a les cultures. La culture d'accompagnement, quoi. Enfin, ces variétés accompagnées des familles.
Alors justement, ce soir, la soirée des Jeudis des Colibris, comme chaque mois, est enregistrée et donne lieu à une émission de radio, donc le Chant des Colibris, qui est diffusé sur Radio 16. Est-ce que ce serait le moment de lancer un appel s'il y a des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent et qui ont des variétés qui se sont transmises dans la famille? Est-ce que ça vous intéresse?
Bah oui, fortement, fortement, parce que... on se rend compte que ça peut partir très très vite. Je prends l'exemple du haricot crochu des Cévennes que je cultive et que on est un certain nombre de personnes à préserver. Et on est en train de mettre un véritable programme de préservation autour de ce haricot crochu d'été et haricot crochu d'automne, parce qu'il y a deux variétés. Et j'ai vu arriver des papés de 70 ans, 80 ans arriver avec des yeux pas possibles et une immense demande en disant je le cultive depuis toujours et je l'ai perdu l'an dernier, quoi.
Ah, d'accord.
C'est vite arrivé, c'est bêtement arrivé. par...
Il suffit que les graines prennent l'eau, que je ne sais pas, il y a des rats, des souris qui passent et hop.
Exactement, voilà, une mauvaise saison, que la personne tombe malade cette année-là.
Ouais,
que...
ouais,
et puis, bon, bah, si on est tout seul à l'avoir, bah,
c'est
juste perdu.
Une personne qui décède, les enfants ne savent pas le précieux de ce petit sachet. Et
le nombre de personnes qui viennent nous voir en disant « mais j'ai les semences de mon grand-père depuis 20 ans dans la cave ».
20 ans, c'est limite là, hein, voire déjà trop tard.
C'est souvent trop tard.
Mmh. Alors du coup, à quel numéro ou comment on peut te contacter, Magali, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter pour cette question, ou un mail ou...
Ouais, et ben, allez, j'y vais, j'ai pas assez de boulot.
allez.
Ben, on est un certain nombre au niveau de la maison de semences. Je vais crier au secours pour qu'on me redonne le mail de la maison de semences tout à l'heure. On vous le communiquera. Sinon, Magali Outhier, je suis au 06 35 36 62 18. 06 35 36 62 18.
Merci beaucoup, Magali Outhier, pour le travail que tu fais et merci pour tout ce que tu nous as expliqué sur les semences paysannes potagères. Merci.
Ils sont venus sans savoir ma chanson. Ils ont vu toutes les terres, la maison. Le notaire s'est assis au soleil. Pour bien faire, j'ai sorti les bouteilles. Ils ont vu toutes les terres, la maison. Ils ont bu sans savoir ma chanson. Il y a des jours où je voudrais être coq et gueuler comme un chanteur de rock, réveiller tous les cons de la terre, les banquiers, ministres et ministères. Ils sont venus visiter ma maison. Ils l'ont vu sans savoir ma chanson. Paysan, tu es paysan. Tu seras la chaleur, l'été et l'hiver, le froid. Paysan, tu es, on te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plantera. Ils ont pris sans savoir ma chanson. Les crédits bilan d'exploitation. Les banquiers se sont mis sous la treille. Les banquiers, ça n'aime pas le soleil. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Ils l'ont dit sans savoir ma chanson. Il y a des jours où je voudrais être un cheval et partir une bonne fois en cavale. Y a des jours où je voudrais être un chien, sans collier, sans tatouage et sans rien. Ils m'ont dit qu'ils prenaient la maison. Mais pour moi, j'ai gardé ma chanson. Paysan, tu es, paysan, tu seras la chaleur. L'été et l'hiver, le froid. Paysan, tu es, tu le resteras. On sait ce que l'on est, on ne sait pas ce qu'on sera. Plaine, ô ma plaine, toi qui connais ma chanson, tu sais ma peine et ma passion. La terre est un destin qui gronde, et la raison est si profonde. Paysan, tu es, paysan, tu seras. On voudrait changer, on ne change pas. Paysan, tu es, on te tuera pas s'il n'y a plus de blé qui le plante. Paysan, tu es paysan, tu seras la chaleur dans l'été et l'hiver, le froid.
Pierre Bachelet qui nous interprétait « Paysan ». Retour dans le champ des Colibris où on parle de semences paysannées anciennes, ce mois-ci avec Martin Lacroix, coordinateur du réseau Fruits Oubliés.
Bonsoir Martin.
Bonsoir Céline et Elodie.
Martin, l'homme de tous les sujets.
J'ai pris un abonnement.
Vous avez déjà entendu Martin le mois dernier sur la question du textile, mais il ne nous avait pas encore parlé de son occupation principale. Puisque Martin est coordinateur de l'association Fruits Oubliés Réseau. Ça n'a rien à voir avec le textile, mais plutôt avec les semences, là, pour le coup. Et donc, il s'agit de protéger les fruits oubliés, comme c'est indiqué dans le titre. C'est ça, Martin ?
Ouais. On aime bien dire aussi le patrimoine fruitier ou la diversité fruitière. Donc en fait, il s'est passé la même chose hein, pour l'ensemble des semences. Il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire un abandon de la diversité, ou plutôt une appropriation de cette diversité par l'industrie et une décrédibilisation des savoirs paysans. Donc on passe les variétés sur des processus industriels de sélection, de création de variétés, et on arrive dans les mêmes impasses qu'aujourd'hui. C'est-à-dire des variétés qui résistent pas aux maladies et qui nécessitent de plus en plus de traitements, et on va dans le mur. Donc on est dans un sujet crucial hein, parce que c'est juste la ressource alimentaire de l'humanité qui est en péril aujourd'hui parce qu'on a la façon dont l'agriculture a évolué conduit cette agriculture dans le mur parce que les plantes sont de moins en moins résistantes. Or, avec tous ces aspects de changement climatique dont on parle beaucoup, on a besoin de plantes résistantes. Et c'est avec les semences paysannes qu'on a ces plantes-là.
D'accord.
Donc, pour les fruitiers, les vieilles variétés, il y avait énormément de vieilles variétés adaptées à chaque fois à des terroirs, à des usages. Tout ça a failli se perdre. Et heureusement, il y a eu des passionnés, là aussi, qui ont pris... en main les choses avant que ce soit trop tard et qui en sont allés collecter. Ça, c'est un peu plus fait pour les fruitiers hein, que pour les autres semences, ou plutôt. Donc, il y a eu Fruits Oubliés, avant s'appelait Fruits Oubliés Sauf qui Pomme, il y a 30 ans, et fait partie des associations qui se sont créées comme ça, qui allaient collecter, ensuite qui collectaient donc des greffons, parce qu'on ne multiplie pas les fruitiers comme les autres.
Oui, alors
le plus
que j'allais te demander, qu'est-ce qu'ils collectaient exactement ?
Ils collectaient et des. Alors, ils allaient dans les campagnes, ils parcouraient toutes les communes, ils interrogeaient évidemment souvent les anciens, et ils collectaient des parties multipliables des arbres. Souvent, on prend des greffons, donc des morceaux de branches.
À une période bien particulière de l'année.
Voilà, c'est ça. Ensuite, on les conserve et ensuite, on les greffe sur d'autres arbres qui sont déjà prêts pour porter cette variété-là. Ça, c'est pour garantir qu'on maintient la variété telle qu'elle était avant, parce que sinon, il y a la pollinisation. Et la pollinisation entraîne un brassage au niveau des gènes, et donc les variétés peuvent évoluer. J'en profite pour dire qu'on fait souvent comme ça avec les fruitiers, mais sans doute, à très long terme, ça a été une erreur, et il faudrait repasser par de la multiplication sexuée, sinon...
Donc, c'est-à-dire la pollinisation par les insectes.
La pollinisation naturelle qui fait qu'ensuite les variétés se mélangent certes, mais qu'il y a un brassage de gènes, parce qu'une partie des dérives qu'on voit, c'est qu'on fait donc des clones. Hein, après, on appelle ça des clones, tout simplement, parce que ça a exactement le même patrimoine génétique. Alors, il évolue un peu en fonction des environnements, mais ce n'est pas la même chose que la reproduction sexuée. Et ça participe de l'affaiblissement des plantes. Donc, les fruitiers, aujourd'hui, c'est une grande remise en question sur le fait d'avoir été sur des sélections de clones, de clones, de clones, de clones. Et on est dans le mur.
D'accord.
Voilà, donc ces associations ont fait ce travail. Beaucoup des associations hein, de collègues, de diffusion après. Donc, une fois après avoir récupéré ces greffons, ils les diffusaient le plus largement possible. Ils ont aussi créé des conservatoires où là, on avait les variétés rassemblées. Ça permet de les comparer, de les étudier. En même temps, c'est dangereux de concentrer trop de choses en un même endroit. Donc, dans une stratégie, il vaut mieux mettre plusieurs exemplaires à plusieurs endroits différents et essayer de suivre. Voilà. Donc ça, c'était le début des activités de Fruits Oubliés.
Dans quelles années ?
Ça, c'était il y a 30 ans, quoi.
D'accord.
Tu vois, les années 80.
Ok.
Et ensuite, l'association a commencé à créer un bulletin. Et de fil en aiguille, ce bulletin est devenu une revue. Une revue dont le but est de donner aux gens envie de réutiliser ces variétés-là et de promouvoir les initiatives pour leur sauvegarde. Voilà, donc c'est une revue qui s'appelle aujourd'hui Fruits oubliés, qui est le cœur d'activité de Fruits oubliés Réseau. Et on participe également à ces dynamiques de réseau pour que les gens qui fassent ça, chacun dans leur région, communiquent entre eux et aussi pour qu'ils soient représentés, parce que c'est un tout petit monde et dans les instances, dans les lois qui se mettent en place, on est souvent absent des endroits où il faudrait être pour négocier.
Quand tu dis Fruits oubliés Réseau, ce réseau, il a quelle envergure ? C'est à l'échelle du Gard ou c'est à l'échelle nationale ? C'est à quelle échelle ?
L'aspect réseau, c'est à l'échelle nationale. Là, la revue parle de variétés de toute la France. Donc, on fait souvent des petits zooms par région, certes, mais on va de région en région. Les initiatives aussi sont des fois même sortent des frontières. On parle des fois d'initiatives particulièrement inspirantes qui se passent à l'étranger, évidemment. Mm-hmm. On a les mêmes problématiques, hein, c'est la même chose. Oui. Voilà, donc c'est.
Et cette revue, comment est-elle distribuée ? C'est par abonnement ? Elle est gratuite ? Elle est payante ? Comment ça se passe ?
Elle est payante parce que c'est une base de notre fonctionnement qui permet de l'autofinancement. Elle est disponible sur abonnement et au numéro par correspondance. Alors, vous pouvez la commander maintenant par un site internet qui s'appelle fruitsoubliés.org, tout simplement, tout attaché. Et aussi, on fait des salons en fonction des forces bénévoles. On fait des fêtes des plantes, des salons écolos à thématique végétale.
Et alors, là encore, j'imagine que les gens sont invités à vous contacter s'ils ont une variété particulièrement intéressante d'arbres fruitiers.
Voilà, et nous, on joue le rôle d'aiguilleur. C'est-à-dire que, bon, dans l'association, il y a des gens qui ont énormément de pratiques et qui peuvent y renseigner directement. Mais le plus souvent, on aiguille vers les associations locales, les réseaux locaux. Les gens nous appellent de toute la France, on leur dit « bon, vous êtes dans quel coin ?» et tout. Et on leur donne déjà quelques premières indications si on peut par téléphone, mais on n'est pas tous des arboriculteurs. Là, on s'occupe aussi d'un magazine, donc on a des compétences dans ce domaine-là. On n'est pas. Mais en tout cas, on les aiguille. Mmh. Et on connaît énormément de gens, vu qu'avec au fur et à mesure que la revue, ça fait 30 ans maintenant, la revue a 20 ans quand même, eh bien, on peut aiguiller très bien.
Oui. Et aussi, peut-être des personnes qui recherchent une variété. Parfois, ils font appel à vous, ils recherchent telle variété de pommes, etc. Et ils vont peut-être faire appel à vous pour savoir où trouver ça.
Tout à fait, oui. Le plus souvent, c'est ça. Hein. C'est des gens qui cherchent des variétés précises et qui nous...
variétés que vous avoir en catalogue, c'est peut-être pas le bon terme, là, pour le coup. Mais les variétés que vous connaissez, on va dire, sont pas celles qu'on trouve chez pépiniéristes.
Alors, il y a pépiniéristes et pépiniéristes. Donc, si vous allez chez Jardiland, ouais, vous n'avez pas trouvé les variétés de terroir. Et par contre, un des éléments très importants de la conservation de cette diversité fruitière, c'est une catégorie de pépiniéristes. Nous, on les appelle les pépiniéristes de la diversité. On ne veut pas les appeler les petits, parce qu'il y a souvent, c'est quand même des très petits. Hein. Mais il y a aussi des pépiniéristes de taille moyenne qui ont des variétés classiques et qui font aussi des variétés traditionnelles. Donc, voilà, c'est des gens importants. Hein. Il y a aussi les associations, il y a les particuliers et il y a les pépiniéristes.
D'accord. Et donc, vous les recensez, ces pépiniéristes de la diversité ?
Oui, on les recense. Il y a quelques années, Fruits oubliés a édité un guide des bonnes adresses des fruits oubliés pour la région Languedoc-Roussillon. Donc, il y avait les pépiniéristes, les associations, voilà. Tout.
Et ça, c'est un guide qui est encore disponible ?
Non, il n'est plus disponible. On envisage de le faire sous un autre format. Après, c'est un très gros travail, mais... Voilà, on est en train d'essayer de rassembler tous ces réseaux-là, donc il est probable que dans les mois qui viennent, on va sortir des nouveaux documents dans lesquels il y aura ces informations-là. En attendant, vous pouvez nous contacter, on vous flèche au cas par cas.
D'accord, et votre site internet, c'est un bon lieu de ressources ?
Oui, il y a pas mal de ressources, d'articles sur les fruits, il y a une présentation des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux fruitiers en France. Et oui, il y a pas mal. Et on flèche aussi beaucoup sur d'autres sites. Il y a des forums sur Internet extraordinaires de passionnés où là, on trouve, on peut poser des questions. On a des gens extrêmement compétents qui répondent.
Donc c'est fruitsoubliés avec un s.org.
Oui.
Merci beaucoup, Martin, d'être venu nous parler des fruits oubliés.
Rappelons également qu'Alès possède un lieu de ressources fantastique concernant les variétés fruitières anciennes. C'est le Centre national de pomologie qui regorge d'informations sur tous les fruits et non pas que les pommes. N'hésitez pas à vous y référer sur Internet ou sur place. Le mois prochain, au jeudi des colibris, on parlera du corps et de la santé avec l'ostéopathe Pierre Richard et sa philosophie qui renverse nos conceptions habituelles de la maladie. Pour assister à l'enregistrement de l'émission et à l'échange avec Pierre Richard, c'est le 15 juin prochain à 19h à la boutique Solidaire à Rochebelle, 5 Faubourg de Rochebelle à Alès.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique Solidaire, au 5 Faubourg de Rochebelle, à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.